Bonsoir, bienvenue pour cette table ronde où je suis très heureux d'accueillir les deux punks de l'imaginaire. Et on va parler donc de sexe, violence, rock'n'roll et de l'exposition Wicca, donc liée aux albums qu'ils ont produits à deux. Donc je vous demande d'accueillir donc Gilles Dumais et Olivier Ledroit. Alors donc Gilles Dumais, connu pour ses actions dans l'édition, éditeur depuis maintenant 17 ans, écrivain, novelliste, touche-à-tout, scénariste, voyageur. J'ai envie de te demander, avant de te demander ta vision de l'édition actuelle, parler un petit peu de ton travail, mais surtout comment s'est fait la rencontre en fait avec Olivier ?
C'est une rencontre qui est assez ancienne parce qu'on a dû se rencontrer à Amiens en 96, quelque chose comme ça, non ? Ouais, ça date un peu maintenant. Et à l'époque, je travaillais à la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, comme quoi ça mène à tout. Et j'avais organisé un petit festival autour de l'imaginaire. Il y avait Olivier qui était venu avec Guillaume Sorel. Et déjà à l'époque, ils étaient bien, bien chauds.
Et la rencontre, disons, qui concerne un peu plus votre collaboration au niveau professionnel, le fait de pouvoir confronter deux univers, comment
alors,
ça s'est fait ça, par
ça s'est passé sur une très longue période, puisque je suis arrivé chez De Noël en 98 et on m'avait confié la collection Présence du Futur. Et quand je suis arrivé, bah, j'ai appelé Guillaume, j'ai appelé Olivier Ledroit, j'ai appelé pas mal de gens qui étaient dans la BD, parce que je voulais que les couvertures soient des couvertures d'illustrateurs de BD. Je voulais amener de la BD dans cette science-fiction et cet imaginaire chez De Noël. Et donc, par exemple, Olivier a commencé, il n'a pas fini, mais il a commencé à relooker entièrement Les Princes d'Ambre de Zelazny. Guillaume Sorel a fait du Dan Simmons. Et on a commencé à discuter comme ça. Et puis après, on a eu... Enfin, moi, j'avais envie de bosser avec lui en BD. Et puis, c'est pareil, il y a eu une discussion qui a pris des années autour de « Ah, mais je ferais bien un truc pour mes gamins, oui, ça serait bien un peu de sortir l'ultra-violence. » Et ça donnait Wicca, mais ça a pris 5-6 ans de discussion.
On reviendra peut-être sur la question de à savoir si l'idée de faire un album jeunesse est réussie ou pas. Je vous laisse juge. Mais
c'est un album jeunesse.
C'est un album jeunesse. Bon. Et alors comment ça se passe quand on sort d'une collection, donc à l'époque Jacques Chambon, avec des couvertures graphiques, disons, assez sobres ? Et comment est-ce qu'on amène l'univers d'Olivier, par exemple, au niveau de son éditeur ? Comment on arrive à le convaincre de faire le pari ?
L'éditeur, c'était moi, c'était assez facile de me convaincre. La direction a rien dit. Enfin, ils ont pas. Ils ont juste hurlé sur une couverture parce que il avait mis une fille à poil avec des crocs de boucher. Elle était vraiment full frontale. Donc ça avait un peu. Tu te souviens de ça ? Moi, oui. Mais en dehors de celle-là, tout était à peu près passé comme une lettre à la poste.
Et donc, tu as fait beaucoup de. Olivier, tu as fait beaucoup de couvertures à ce moment-là pour De Noël, du coup ?
Oh, je sais plus, j'ai dû en faire. 10, 15 peut-être, pas beaucoup plus hein, en fait, pas beaucoup plus, je me rappelle qu'est-ce que j'avais fait, Je suis une légende qui m'avait beaucoup plu, et là pareil ça avait coincé aussi parce que le personnage était trop violent, et du coup je l'ai un petit peu radouci, voilà quoi, mais bon dans l'ensemble ça c'était pas non plus, moi j'avais envie de faire des belles images, hein, je n'ai pas... Je dirais, c'était pas les types avec les tripes à la main, quoi, tout le temps non plus, quoi. Voilà.
Et donc, en 20 ans de collaboration, vous avez l'impression de vous être assagi ?
Bon, disons que là, on a décidé de faire quelque chose dans un style particulier, donc oui, c'est plus sage, hein, c'est sûr.
C'est plus sage. Et alors, toi, tu avais fait donc pas mal des livres illustrés bien avant votre collaboration. Mm-hmm. Et donc, l'univers de Wicca, qui l'a amené ? Qui a produit tout ça au départ, en fait, et comment
En fait, moi, j'avais cette idée de faire un truc un peu personnel sur ma fille et qui soit susceptible de lui plaire, quoi. Et puis, j'avais cette image aussi de Requiem. Au bout d'un moment, j'en avais un petit peu assez d'être toujours étiqueté dans le sanglant, etc. Parce que bon, bah, Requiem, c'était pas que ça non plus, quoi. Donc, et puis bon, moi, j'avais pas que ça à dire. Alors, ça me paraissait intéressant, quoi. C'est pas vraiment pour enfants, c'est plutôt pour adolescents, d'ailleurs. Ouais, pour jeunes adolescentes, on va dire.
Et tout à l'heure, tu parlais des romans que tu avais illustrés. Toi, tu es toi-même lecteur de science-fiction ou de fantasy, ou c'est quelque chose qui t'intéresse juste au niveau graphique ?
Non, un petit peu. J'en lis presque plus. Presque plus. À une époque, je lisais pas mal de, bon, un petit peu de SF, et puis j'aimais bien le gothique, quoi, genre Lovecraft, des choses comme ça. Quoi.
Alors, tout à l'heure, donc Gilles parlait de Guillaume Sorel aussi. Et moi, c'est vrai que dans l'esprit, dans vos démarrages, en fait, je trouvais qu'il y avait une relation, moi, avec ton travail, celui de Sorel, bon, lié aussi par le scénariste Froideval, qui a été commun à vous deux à un moment donné. Mais ça, c'est une collaboration, par exemple. Est-ce que les Chroniques de la Lune Noire, par exemple, t'ont permis ensuite, petit à petit, d'affiner ton style pour, tu considères que c'est l'aboutissement de ton style, ou est-ce que tu es encore dans une recherche perpétuelle et tu as envie de gratter encore dans des directions différentes?
Si tu veux la technique, en fait, il faut quoi, 4-5 ans pour être au taquet. Moi, quand j'ai fini Xoco, au niveau technique, j'étais vraiment à mon maximum, quoi. J'ai pas... Donc la solution, c'était de refaire soit toujours la même chose, soit... De repartir un petit peu à zéro à chaque fois, quoi. Le travail sur Wicca, je suis revenu au trait à la plume, alors que je suis pas très à l'aise là-dessus. Je fais des trucs qui me paraissent un peu difficiles. Et puis surtout, bon, au bout d'un moment, j'ai fait le tour des choses et puis je m'ennuie, quoi. Donc, j'ai besoin de recommencer à partir dans un autre style, quoi.
Tu n'es pas très à l'aise sur le travail à la plume. Maintenant, ça va mieux, a priori.
Ouais. Non, mais c'est pas le truc où je suis le plus à l'aise, quoi. Je suis plus à l'aise au crayon ou au pinceau, mais...
Et tu parles de Xoco. Pour moi, ça reste un album assez différent par rapport à ta production. Mmh. La peinture directe, je dirais, voilà, moins cernée. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire, ou est-ce que vraiment... Le ramener au dessin, parce que donc la plume, ça te ramène quand même au dessin et moins à la peinture, en fait. C'est quelque chose que tu navigues entre les deux, ou est-ce que c'est vraiment la plume maintenant ton...
Oh non, je pense que je passerai à autre chose après. Mais quand j'avais fait Xoco, pareil, j'étais très étiqueté Heroic Fantasy et ça m'énervait un peu. Donc j'avais envie de présenter autre chose de mon travail. Et là, je me suis lancé dans ce truc hyper réaliste. À l'aérographe et tout, pareil, il y avait un changement de technique radical, quoi. Et puis, surtout, j'avais des envies de plus cinématographiques sur Xoco. Wicca, ça fait, par exemple, beaucoup moins appel au langage cinématographique. Je suis revenu plus sur la BD. J'ai demandé à Gilles qu'on ait des plus de voix off, quoi, que ce soit que le texte soit un petit peu graphique dans l'histoire. J'avais pas envie d'un truc aussi sec que Xoco ou par exemple Pat Mills, c'est un scénariste qui aime pas trop les bulles pensées, qui aime pas trop la voix off, par exemple. Donc ça me manquait un peu. J'avais envie de faire un livre un peu différent, quoi.
Et alors, comment vous avez travaillé entre le ping-pong entre vous deux, entre les textes, les dialogues, qui fait quoi, qui modifie quoi, qui influence l'un, qui influence l'autre?
Bon, c'est un peu mutuel, hein, quand même. On a tous les deux on est tous les deux créatifs, on a des idées, quoi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'entend sur la structure d'ensemble. On affine ça en plusieurs fois, quoi. Je fais des storyboards préparatoires où je mets en scène le truc en prévoyant de la place pour les textes, par exemple. Et puis sur certaines de ces scènes, Gilles me dit, moi j'ai besoin de plus d'espace pour les textes, donc il fait vraiment une scène très dialoguée, quoi. Et après, moi je mets en image, ou alors on fait le cheminement inverse, c'est-à-dire que je fais une séquence qu'on a préparée tous les deux, on sait très bien le tenant et les aboutissants de toute la séquence, et puis je la mets en scène et ensuite on réajuste avec les dialogues, quoi.
Sur le design des personnages, par exemple, les choses comme ça, du coup, le graphisme influence le texte.
Bon, j'interviens pas sur le design des personnages vraiment très peu. Ce que Olivier a juste oublié de dire, c'est que quand il m'a contacté pour Wicca, il avait déjà 200 pages de croquis, qui m'a envoyé un truc gros comme ça, et qui m'a envoyé l'histoire aussi, qui était écrite entièrement, dans un mail. Voilà, j'ai écrit toute l'histoire, qu'est-ce que t'en penses voilà, donc j'ai reçu les 200 pages de croquis, j'ai reçu l'histoire. Bon, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, il faudrait peut-être qu'on change ci, ça, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, on discute tout le temps, mais il n'y a pas de règle. Je ne peux pas dire, cette scène-là, on va la faire comme ça. Peut-être, moi, je vais écrire les textes d'abord, et lui va faire le storyboard derrière, ou l'inverse. Il va faire le storyboard, il va me l'envoyer, et puis il va me laisser toutes les bulles vides, et il va me dire... Bon, Gilles, là, t'as 12 bulles de dialogue. Bah, t'es gentil, tu trouves 12 trucs à dire, quoi. Voilà. Donc, bah, s'il y en a trop, on peut pas en enlever une ou deux. S'il y en a pas assez, on peut pas en rajouter une ou deux, etc., etc. Des fois, il me pose des vrais problèmes parce que il veut illustrer ça. Alors, il a eu l'image. Il y a la scène, elle est comme ça depuis le début. Même avant qu'on travaille ensemble, elle existait déjà, cette scène-là. Donc faut trouver où on la met dans la BD. Il y a un moment, elle va être bien là. Donc voilà, elle va être bien là, t'es d'accord? Oui, ok, elle va être bien là, hop. Et puis des fois, c'est, bon, on va la garder pour le tome 2. On va la garder pour le tome 3. On va peut-être la mettre dans les bonus. Non, on peut pas. Bon, d'accord, donc on va la mettre pour le... etc, etc. Et bon, là, on discute beaucoup. Ce qui était super important pour moi, parce que là, j'aurais pas été capable de travailler avec lui sinon, c'est qu'on était d'accord sur d'où on partait, où on allait et en combien de tomes on y allait. Pour que je puisse vraiment voir au niveau de la progression scénaristique, les retournements, les twists, les cliffhangers, tout ça, parce que voilà, c'est aussi un jeu, hein, faut s'amuser avec l'art de la narration BD, et il faut donner un petit peu au lecteur ce dont il a envie, donc s'arrêter sur des choses qui sont, bah, le tome 2 s'arrête sur une série de cliffhangers, il y en a 3 ou 4. Donc voilà, c'est comme ça, le tome 3 s'arrêtera sur un truc vraiment atroce. Et donc on sait, voilà. Et une fois qu'on sait ça, ben on sait où on va. Et puis le problème que j'ai eu avec Wicca assez tôt, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Et c'est comme une série télé. Du moment que vous avez beaucoup de personnages, vous aimez ces personnages. Ils sont tous sympas, même les méchants, ils sont sympas. Il y en a pas un qui est vraiment noir, il y en a pas un qui est vraiment blanc. Ils ont tous leurs défauts, ils ont tous leurs qualités, y compris Wicca. Et donc ils doivent tous apparaître. Donc il y a c'est un jeu, c'est un petit peu. Ben, vous devez tous regarder Game of Thrones, mais voilà, dans Game of Thrones, on attend toujours le moment où le nain arrive. Bon, ben, dans Wicca, c'est pareil, on attend toujours le moment où le nain arrive. Il va dire une connerie d'habitude. Mais, et puis voilà, il faut que chacun des méchants, chacun des bons, et sa petite scène, son petit morceau de bravoure, son truc. Et donc, c'est une espèce de fresque. Et ça se passe, voilà, c'est du ping-pong permanent, mais pas que sur la narration, sur le fond, sur ce qu'on a envie de raconter, sur. Des fois, il me sort une horreur, donc je dis, tu te souviens, c'est pour ta fille de 14 ans, là. Ah oui, t'as raison, on va peut-être le garder pour le tome 3, elle aura 16 ans. enfin, voilà, bon, c'est comme ça, c'est a wonderful life.
Le texte évolue en fonction de l'âge du lecteur.
Voilà, comme Harry Potter.
Comme Harry Potter.
Harry Potter.
Et Gilles, tu avais eu déjà des expériences de scénarisation en bande dessinée avant ou
Non, là, ça a vraiment été le baptême du feu. C'est arrivé en même temps, ça et La Voix du Sable chez Glénat, qui est scénarisé par Mathieu Mariol, qui a fait un super boulot. C'est-à-dire que quand Glénat m'a appelé en me disant « on achète La Voix du Sable et qu'il faut acheter les droits », bah, j'ai dit « ouais, c'est Gallimard, vous voyez avec eux et tout ». Et j'étais en train de discuter de la série avec eux, parce que je voulais voir un peu à quoi ça ressemble. Et c'est arrivé au même moment qu'Olivier m'a dit, ben voilà, le scénar et tout. Donc j'ai eu la chance de quand même discuter beaucoup avec Jacques Collin, qui était l'éditeur d'Olivier avant qu'il arrive chez Glénat, chez Nickel. J'ai beaucoup discuté avec Benoît Cousin, tous ces gens-là m'ont donné énormément de conseils. Mais en fait, c'est Olivier qui m'a vraiment appris le boulot en m'envoyant, ben. D'abord, ça a été un scénar de Pat Mills, puis il m'a dit « Regarde, on fait comme ci, on fait comme ça ». Et puis, moi, j'ai téléphoné aux gens que je connaissais dans la BD, je leur ai dit « Bon, voilà, c'est les scénaristes qu'il faut lire, c'est qui ?» Donc, évidemment, tout le monde m'a dit Alan Moore, ça, j'avais trouvé tout seul, j'avais pas besoin d'eux. Mais ils m'en ont donné deux, trois autres à regarder. Et j'ai regardé, j'ai un petit peu analysé comment tout ça se faisait. Et j'ai surtout réfléchi sur les trucs qui, moi, me plaisaient. Et pourquoi ça me plaisait. Et j'ai essayé de retrouver ça dans Wicca, ce plaisir de raconter une histoire qui commence par « Il était une fois ». Et ce plaisir de se dire que dans cette histoire-là, c'est un conte, donc elle est cruelle, donc on peut dégager des gens, et donc il y a des gens qui vont mourir, et vous ne savez pas qui sera l'arrivée. Vous allez progresser sans jamais savoir. Donc ça aussi, c'était un plaisir de se dire, voilà, le lecteur, il n'est pas dans une série de BD où le héros s'en sort tout le temps, où les personnages s'en sortent tout le temps, parce qu'il y en a avant la fin qui vont dégager. Désolé, c'est comme ça.
Et quand tu as vu arriver les premières planches, tu t'es dit quoi ? Waouh, ou c'est le début des emmerdes ?
Ouais, en fait, j'ai vu surtout arriver les premiers crayonnés de story. Je suis chez Olivier pour travailler avant de voir les planches, quoi, sur le storyboard. Et c'est vrai que c'était étonnant de voir, de passer d'une feuille de papier comme ça, où on écrit case 1, il se passe ça, case 2, il se passe ça, case 3, il dit un truc, d'un seul coup, ben voilà, c'est découpé en cases. Et puis bon. C'est vrai qu'Olivier, il a un découpage qui est extrêmement ambitieux, extrêmement particulier, sur lequel j'interviens très très peu, voire pas du tout. Et donc c'est surprenant. Et moi, j'étais enchanté à chaque fois parce que et toujours il me dit, alors c'est comme ça que tu imagines les choses. Alors je suis là devant les plages, je dis ben non, j'imaginais rien en fait parce que je savais pas comment il allait faire son truc. Globalement, c'est ça. Quand on passe d'un storyboard qui est grand comme ça. Ah, un truc qui fait... c'est quoi? C'est des A3? C'est plus grand qu'A3?
Non, c'est 80 par 60.
Ouais, 80 par 60. Bon, ben, on est passé de ça à... Évidemment, c'est pas pareil, quoi. Et puis, c'est... Enfin, moi, j'ai la chance d'aller chez lui, de le voir dans son atelier. Donc, je le vois ancrer, je le vois mettre les couleurs. Enfin, c'est quand même un boulot de malade, quoi. Enfin, c'est un truc... Enfin, Dieu merci, c'est pas moi qui dessine, hein.
Et Olivier, quand tu fais la planche, tu te dis que Gilles va être ton premier lecteur ?
Non, non, non. C'est moi mon premier lecteur. Je pense pas. Je pense à personne en particulier, quoi.
Non, de temps en temps, tu te dis pas, tiens, là, je vais le. Ah, il m'a mis cette scène-là. Ben là, je vais lui en rajouter 10 de plus, ou je vais le surprendre un petit peu, ou.
Non, non.
Il a l'air d'avoir ce sentiment-là.
Oui, à l'arrivée, c'est peut-être un peu comme ça, mais c'est pas fait sciemment, quoi.
Ça, ça se passe pas comme ça. C'est d'habitude, il m'appelle en me disant, Gilles, au fait, j'ai rajouté ça. Et je suis là. Oui, tu l'as rajouté où, comment, quand. D'accord. Ok. Je prends des notes. Donc, je vais dans mon scénario et je vais regarder. Donc, dans le tome 3, il y a ça qui change. Dans le tome 4, il y a ça qui change. Enfin bon, il avait aussi envie de. Ressusciter des personnages qui étaient morts, enfin bon. Mais non, il peut y avoir des surprises, mais il faut s'adapter, voilà. Faut vraiment s'adapter.
Oui, c'est cette vivacité qui permet de rester sur la longueur de cette manière-là. Combien de temps un album Wicca, par exemple, c'est combien de temps de travail ?
Bien, c'est en gros 18 mois de boulot, quoi. En gros, comme je fais d'autres choses en parallèle, ça monte à peu près à 2 ans, quoi.
Et par exemple une planche.
Parce que ben ça dépend, voit, hein, si c'est au début de l'album peur, ou si c'est à la fin quand l'éditeur commence à me courir derrière, là, je vais plus vite. Mais en général, je fais entre 1 et 2 pages par semaine, quoi. Une page, ça va, c'est les horaires normaux. 2 pages, il faut commencer à travailler la nuit ou des choses comme ça.
Voilà. Et alors pourquoi par exemple le choix de double page?
Parce que c'est plus, je trouve que c'est plus spectaculaire. C'est plus spectaculaire. C'est à la limite. Souvent, moi, j'aimerais bien travailler dans des formats italiennes, quoi. Il y a quelque chose qui fait panoramique, qui me plaît énormément, quoi. Après, te dire pourquoi, je saurais pas. Mais il y a quand même une graduation de valeur entre la taille des cases et. Il y a des moments où il faut que le lecteur il s'en prenne vraiment plein les yeux, quoi. Donc à ce moment-là, j'utilise la double page.
Et vous n'avez pas eu envie à un moment donné de soumettre l'idée d'un format plus grand au niveau de l'album ?
On l'a eu en plus grand. Il y a une édition collector.
Une édition de luxe.
Ouais. Une édition de luxe qui existe.
Et le fait, par exemple, depuis quelques années, tu vends beaucoup d'originaux en galerie. Est-ce que cette deuxième vie des planches t'as influencé sur le choix des formats, sur ta manière de travailler, sur ta manière d'envisager la planche?
Oui, évidemment. Ouais. Ben, en fait, avant, je travaillais un petit peu plus petit quand même. Mais Mais j'aime bien avoir un certain effet quand les pages... en fait, j'y pense autant, je pense autant au résultat quand la page sera accrochée sur un mur qu'à la lecture, quoi. Il y a ces deux aspects-là qui sont un peu... qui sont un peu des fois contradictoires, qui me forcent un peu au grand écart. Parce que il faut que ce soit joli à regarder sur un... C'est pour ça qu'il y a de la dorure, des choses comme ça, des collages. Mais je sais qu'une fois imprimé, ça va disparaître. Donc, mon plaisir, c'est aussi de les voir accrochés en expo, comme ça.
Oui, ben c'est vrai que lorsqu'on voit les originaux, je pense que vous êtes d'accord avec moi, lorsqu'on voit les originaux, on se dit que l'album, finalement, on est frustré. De voir une perte de détails, de voir effectivement la perte des matières. Penser à l'exposition me fait penser à la vitrine où il y a tes carnets de croquis. Et donc, si j'ai bien compris, ce sont les carnets, le storyboard, les choses comme ça que tu vas montrer à Gilles.
Oui, oui.
Voir qui dessine pendant qu'on discute, quoi. C'est arrivé plein de fois. Cette scène-là, je la refais. Il refait le storyboard de la scène devant moi. Il redessine toutes les cases, les trucs, des têtes à Toto, et puis voilà, hop, on y va, quoi, comme ça.
Alors, je ne sais pas si vous avez regardé en détail les carnets, mais du coup, je peux quand même te poser une question, Gilles. Quand il te montre ces croquis-là, tu les comprends?
Ah ouais, je les comprends, ouais. Ouais, ouais. Enfin, ça dépend après combien de bouteilles de vin, mais si c'est avant, oui, je les comprends plutôt, ouais.
Tu comprends autre chose après?
Oh, non, ça va. Non, ça va. Mais pour en revenir aux doubles pages, les doubles pages, c'est intéressant parce que c'est un des outils de la narration de BD chez Olivier, et donc c'est aussi un passage obligé, quoi. Et on sait que c'est une BD, on sait qu'il va y avoir une tentation vers des illustrations vraiment grandes, et il faut continuer à raconter, malgré ces doubles pages, malgré vous verrez dans l'expo, il y a des pages du tome 2 qui ressemblent presque à des illustrations. Mais une fois qu'il y a les textes et une fois que les bulles sont dessus, il y a quand même de la narration. Ça continue à raconter l'histoire. C'est pas l'histoire qui s'arrête sur la page. Et c'est toujours un défi de permettre à ces grands dessins de continuer à raconter l'histoire, d'être toujours dans la narration, toujours dans l'histoire qui s'avance, et pas dans toc, je m'arrête parce que...
Oui, il y a un temps...
Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment ce défi-là, il me plaît vraiment à la fois de produire des belles images comme quand Agis reforge sa hache, et en même temps, quand il reforge sa hache, ben, ça raconte une histoire sur justement d'où il vient Agis, qui il est et quelque part où il va.
Et alors, matériellement, pour quelqu'un qui ne saurait pas du tout comment ça se passe en termes de scan des grandes planches, la pose des bulles, la pose des textes, du coup, ça se passe comment ?
En fait, c'est photographié par quelqu'un de spécialisé chez Glénat. Il m'envoie les scans, enfin les clichés, sur lesquels je fais quelques rectifications de contraste, choses comme ça. Je nettoie mes pages. Et après, je me pose les bulles et je pose les textes, quoi.
D'accord, c'est toi qui fais la mise en page des pages définitives, en fait.
Mise en page, enfin, sur certains bouquins d'illustration, je fais un peu la maquette, mais là, en fait, il s'agit de remettre les bulles à l'endroit où elles étaient sur le storyboard, quoi. Donc, tout est calibré avant, hein, donc il y a peu de changements.
Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des planches que tu as faites, par exemple, et que Gilles a dit non, là, c'est pas possible, on la laisse de côté pour le 12e? Ou on la met pas du tout.
Non, parce que
tu effaces tout, tu recommences.
Je ne veux pas t'arrêter non plus, quoi. Quand il y a des trucs, je sais que ça risque de coincer. On en parle avant avec des croquis, quoi. Je ne vais pas m'amuser à faire un truc que je vais être obligé de recommencer, quoi. Non.
Et l'éditeur, lui, quand il voit arriver certaines planches.
Ben pour l'instant, il est content tout le temps. Donc on va pas.
En même temps, on arrive avec l'album terminé et il a 3 jours pour le fabriquer, donc. Sur le premier, on lui a pas laissé trop le choix. Là, sur le deuxième, il a beaucoup demandé les choses en avance. Je lui ai donné quelques trucs de temps en temps. Tu vois, ça avance. Et alors, pour revenir sur les scènes censurées, il y avait une fin alternative du tome 1 qui n'a pas dépassé le stade du projet. J'ai dit non. Alors, peut-être un jour dans les bonus on en reparlera, mais
il y aura peut-être un making-of de Wicca.
Pour le tirage de luxe, on rajoute déjà 4 pages à chaque fois. Voilà, donc on rajoute des pages qui sont pas forcément indispensables, mais où on se fait plaisir.
Voilà. Sur le méta-univers, sur le...
Dans le cours de la BD, sur le tirage de luxe, il y a par exemple, il y a une double page qui n'existait pas dans l'album, et il y a une double page narrative qui n'existe pas non plus dans l'album. Il y a certaines scènes qu'on rallonge un peu juste pour le tirage luxe.
Alors ouais. cette première expérience pour Gilles, est-ce que ça t'a donné envie de faire d'autres expériences en bande dessinée? Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres collaborations? Alors, est-ce qu'il y a des dessinateurs avec qui tu aurais du coup envie de travailler?
Oui, il y en a plein, mais c'est vrai que j'ai... Alors avec Olivier, c'est vraiment particulier parce que c'est une collaboration filée, continue depuis 3 ans maintenant sur Wicca. Lui, il est dans le tome 2, mais moi, le tome 2, c'est fini pour moi. Moi, je suis dans le tome 3, là. Mais j'ai signé un contrat chez Glénat pour faire une bande dessinée, sa première, avec Aurélien Polis, qui a eu le Grand Prix d'Imaginaire l'an dernier pour l'illustration.
Chouette scoop.
Ou cette année. Non, c'est pas un scoop. Et puis je fais des scénars. Donc je fais moi-même des scénars, mais sans illustrateur. Juste, cet été, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire un Macbeth. Donc j'ai fait un roman graphique Macbeth de 80 pages que j'ai envoyé chez Glénat à mon éditeur en disant, j'ai écrit ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et donc lui après, il cherche des illustrateurs qui s'intéressent ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas envie d'arrêter parce que j'ai envie de continuer à écrire des livres. Mais j'ai aussi envie de. Il y a des choses que j'ai jamais réussi à faire en littérature, des histoires que j'avais dans la tête qui passaient pas l'épreuve du texte. Que chaque fois que je lisais le texte, ça allait pas et les histoires me plaisaient. Et maintenant, je m'aperçois que ces histoires-là, elles peuvent exister en BD. Donc j'ai envie de les développer sous forme de scénario. De BD sans avoir un illustrateur, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un illustrateur au départ. Mais là, moi, j'apprends le métier. C'est vrai que je continue à écrire des. Je fais des scénars régulièrement. J'ai des projets, je propose plein de choses parce que. On m'a dit, un copain scénariste chez Glénat m'a dit, tu sais, il faut toujours avoir 5 projets parce que c'est tellement long. C'est vrai que c'est long. Donc, avec Olivier, ça a été court puisqu'il est venu me chercher, mais c'est un peu comme dans le cinéma. Il y a plus d'argent en jeu que dans les livres. Donc les gens sont beaucoup plus prudents et les projets doivent être beaucoup mieux pensés. Et par exemple, quand je fais un scénar, je prépare tout un dossier avec le scénar où je présente qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que je veux comme dessin, qui je suis, d'où je viens, etc., etc. Il y a tout un dossier pour présenter le scénario qui est derrière. Et souvent même, je rajoute des annexes au scénario pour expliquer, il y a ça qui est dans... Cet univers graphique, il faut faire ci, ça, etc. Et donc c'est long, il faut que les gens lisent le truc qui fait 80 pages ou 70 pages. Et après, il faut qu'ils trouvent un illustrateur. L'illustrateur fait des essais, on trouve une espèce d'équipe. Sur Aurélien Polis, c'est en fait, on était sur un projet dont je ne peux pas parler, qui était avec les Américains. Et on a eu au dernier moment quasiment une mauvaise nouvelle des États-Unis, c'est-à-dire les droits appartiennent à telle boîte qui ne veut pas les vendre. Bon, on s'est retrouvés comme des cons. Et donc, Aurélien m'a dit, on essaye de trouver autre chose. Donc, j'ai écrit, je lui ai proposé des choses et il s'est arrêté sur une histoire. Et j'ai développé cette histoire en scénario. Et c'est une histoire de... Alors, c'est pas une histoire de zombies. C'est une histoire d'apocalypse économique aux États-Unis où les pauvres deviennent des gens vraiment... je sais pas comment dire, damnés, qui portent tout le poids du monde sur leurs épaules et en même temps menaçants. Et j'ai écrit une histoire là-dessus et chez Glénat, ils ont aimé, ils ont dit ok, banco, on fait. Et après, nous, ils nous ont demandé de tout découper en 4 épisodes pour les comics américains. Et parce qu'ils présentent ça aux éditeurs de comics. Parce que la chance que j'ai avec Olivier, mais que j'ai eu aussi sur La Voix du Sabre, c'est que c'est des BD qui sont traduites dans plusieurs pays. Alors, 5, 6, 7, 8 pays.
Et alors, entre ta casquette d'éditeur, écrivain, scénariste, voyageur, comment tu divises ton temps, du coup?
La casquette principale, elle n'est pas dans la liste que tu dis. C'est que d'abord, je suis papa, j'ai 2 enfants. Et en plus, c'est comme ça, je suis séparé, c'est moi qui la garde, donc c'est moi qui m'en occupe. Et une fois que je me suis occupé des enfants, je les ai mis à l'école, la cantine, le bus, tout ça. Là, je peux commencer à travailler. Et puis, quand ils rentrent de l'école, il faut faire les devoirs. Puis une fois que je les ai couchés, au lieu de regarder un film, je me remets à travailler. Et puis, je me lève tous les matins à 5h30, parce que je me lève tous les matins à 5h30, c'est comme ça. Et je me mets à travailler jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Je les lève à 7h. Et voilà, c'est une journée normale. Alors, j'ai la chance de travailler à domicile à part une journée de présence obligatoire à Paris par semaine. Donc j'organise mon temps entre mon métier d'éditeur, mon métier d'auteur, tout mon temps libre, comme je peux. Des fois, c'est plus de scénarios parce que j'ai plus de temps sur le scénario. Des fois, c'est plus d'éditions parce que c'est Francfort, c'est le salon du livre, c'est voilà, il y a plein de trucs à faire. Il y a des livres qui sortent et tout. Et on jongle comme ça. Donc j'ai découvert un truc formidable qui s'appelle Minecraft. Donc c'est un jeu sur PS3. Je mets mes enfants devant Minecraft à 8h du matin, parce que là c'est les vacances scolaires là. Je sais pas si vous êtes au courant, mais moi je suis au courant. Et donc je les récupère à 11h30 en leur disant bon, papa va faire le déjeuner là, donc vous lavez les mains, tout ça. Et puis à 2h, je les interdis de jouer à Minecraft, ils devraient y jouer dehors, mais je surveille quand même un petit peu, puis je remets à bosser sur le portable. Et puis voilà, j'organise ma journée comme ça quand ils sont pas à l'école. Quand ils sont à l'école, c'est beaucoup plus simple.
Plus la lecture des 600 manuscrits pour par an.
C'est vrai que je reçois 600 manuscrits par an pour de Noël et qu'il faut que je me les tape tous, sans parler des manuscrits anglais que je reçois, qu'il faut aussi que je regarde. Mais bon, ça fait partie du boulot, quoi. Enfin, c'est ça le boulot d'éditeur. On passe 90% du temps à refuser des textes et 10% du temps à travailler sur les textes qu'on a acceptés, qu'on va publier et qu'on va promouvoir. C'est comme ça, c'est ce travail-là. Ce travail-là, c'est de dire non tout le temps, toute la journée.
Et alors, Olivier, au niveau projet, tu es sur d'autres collaborations en même temps ? Tu parlais donc d'autres activités. Est-ce que tu peux nous en parler ?
C'est plutôt des commandes de galeries, des choses comme ça. Là, moi, je suis un peu bloqué pour pas mal d'années. Hein, donc, il y a Wicca à terminer et Requiem à terminer aussi. Donc, là, j'ai du boulot pour quelques années. Quoi.
Et Wicca, donc, c'est prévu en combien de tomes, du coup ?
Quatre tomes. Oui. En fait, on a écrit l'histoire tout de suite. Nous, la fin était écrite dès le début de la collaboration, quoi. Donc, c'est beaucoup plus facile, hein, comme ça. À une époque, la BD, on commençait le premier tome, et puis on voyait si c'était sympa, puis après, on réfléchissait éventuellement au tome suivant, quoi. Mais il y a eu trop de revers. Maintenant, les éditeurs veulent des livres finis, quoi, avec un début, une fin, et qu'ils sachent où ils peuvent aller, quoi.
Et alors, au niveau parution, est-ce que tu peux, par exemple, nous donner des chiffres de vente de Wicca 1, par exemple ?
Wicca 1, on doit tourner autour des, je dirais, 16-18 000, quelque chose comme ça. Parce que le premier tirage était de 18, et ils en ont tiré 4 000 de plus, il me semble.
Et est-ce que c'est donc, le même public qui voilà, te suit depuis les chroniques, ou est-ce que là, vous avez réussi à faire une œuvre familiale ?
Chaque projet, bon, j'ai un noyau dur un peu de gens qui aiment bien mon travail.
Il doit être ici, non ?
Qui est peut-être bien là, ouais. Et après, bon, bah, sur certains, ça plaît plus ou moins à d'autres, et puis voilà, quoi. C'est vrai qu'au Wicca, on visait vraiment un public de jeunes et féminins, quoi. Et les premières dédicaces qu'on a fait, on avait des retraités, quoi. On s'est dit, là, on a raté notre coup complètement, tu vois.
C'était un jour d'école, la première dédicace.
Là, commence à un petit peu plus arriver, quoi. Je suis assez content.
Des retraités gothiques,
ouais.
C'était non, plutôt hard rock, hein, que gothique. Plutôt Harley Davidson, ouais.
Ouais, c'était
avec la chaîne, tout ça.
C'était des vieux assez rock, ouais. Ouais.
Mais, c'est étonnant, ils demandent toujours qu'on dessine une jeune fille avec une forte poitrine.
Ça s'est passé à un certain âge. Ouais. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? On va regarder un petit peu. Ah, mais ils sont nombreux finalement quand on n'a pas la lampe bronzante. Alors,
on a 1000 watts de lumière dans la gueule, donc on voit personne, rassurez-vous. Si vous n'êtes pas maquillé, c'est pas grave.
Je croyais qu'on était seul, moi, au départ.
Donc, bonsoir. Moi, j'ai une question pour Olivier. Requiem annoncé pour 2020, info ou intox ?
Attends, faut que je compte sur mes doigts. Requiem, ce sera. Requiem, je vais commencer dans, a priori, 2 ans et demi. Donc, ouais, on y arrive tranquille, quoi. Un petit peu avant 2020, à mon avis. Dans la programmation, il y aura l'âge fini Wicca 2, il y a Wicca 3, et ensuite j'attaque le tome 12 de Requiem. Je finis Wicca et je finis Requiem. Voilà.
D'autres questions? Donc là, c'est, tu nous annonces le dernier tome de Requiem, en fait.
Tome 13, oui.
Tout a été dit? Non. Et des one-shots entre-temps ou pas du tout? Le one-shot, ça t'intéresse plus du tout?
Non, mais j'ai une famille, il faut que je dorme et tout ça, moi. J'ai pas que... J'aimerais bien, mais bon, faudrait. Je peux pas. Je peux pas. Là, ça prend vraiment déjà beaucoup de temps, quoi. Et régulièrement, bon, bah, pour. Je travaille avec la galerie Glénat. Bah, bon, par exemple, là, il va y avoir une expo Otomo. On va me commander un truc sur Otomo. Il va y avoir. Je travaille avec une galerie belge qui me commande un truc de temps en temps. Bon, c'est une expo collective.
Tu peux peut-être déjà parler de l'expo, la prochaine exposition chez Glénat.
Ah ben, la prochaine expo chez Glénat, ça va être le prochain week, hein, de toute façon. Donc, voilà. Après, j'ai d'autres idées, mais que j'abandonne au fur et à mesure, parce que je n'ai pas le temps de les réaliser. Quoi.
Bonjour. c'est une question pour Olivier aussi, du coup. C'est juste par rapport aux matériaux, en fait, enfin, par rapport aux techniques utilisées. C'est plutôt quoi? C'est plutôt de l'acrylique ou, enfin, où il y a, enfin, c'est quoi les techniques différentes, en fait, qui sont utilisées pour les planches en général?
Ben en fait, bon, moi j'essaie de changer un petit peu de technique pour chaque série. Wicca, c'est travailler à la plume sur une carte avec un papier légèrement ivoire. Et la couleur, c'est de l'aquarelle. Pour avoir une texture comme ça, très douce et mate. Mate. Là-dessus, bon, il y a des collages de pièces métalliques, de dentelles et de la dorure. Donc voilà. Pour Requiem, c'est des encres acryliques avec qui donnent des couleurs plus dures et plus violentes, et sur laquelle après il y a pas mal de travail où je fais des incrustations avec Photoshop de pentacles, de choses comme ça, quoi, tout un tas de. Je rajoute des textures en faisant des calques en changeant l'opacité, quoi, si vous voulez. Le boulot d'avant, chat et Xoco, c'était beaucoup plus avec de l'aérographe. Alors, donc voilà, j'essaie de changer à chaque fois. Là, je viens de me racheter un aérographe. Alors, je ne sais pas si je vais l'utiliser tout de suite là-dessus, mais je pense que je vais m'en servir plutôt pour faire des peintures. Sur le Fait Amazon, c'était l'idée, c'était d'aller très très vite, quoi. Je faisais, je sais pas, 3-4 illustrations par jour. Et il y a beaucoup de. L'idée, c'était de faire des collages. Et je sais pas si certains d'entre vous m'ont déjà vu en dédicace, mais je fais des dessins très très lâchés, avec beaucoup de projections, etc. Et j'avais envie de faire ça chez moi, un peu plus tranquillement et de façon un peu plus réfléchie. Mais quelque part, je sais pas, j'ai fait quelque chose comme 60 illustrations d'affilée dans un délai assez court. Et voilà, je voulais qu'il y ait cette espèce d'énergie, cette énergie-là. Parce qu'il y a un travail qui est complètement différent de la BD, qui est plus carré, plus laborieux quelque part, parce que il faut vraiment rester toujours dans le fil rouge de la narration, et on peut pas se permettre trop d'excentricité en cours de route, quoi. Il faut rester dans le style. Tandis que bon, bah là, c'était un peu une bouffée d'air. Et puis bon, bah, une fois que j'ai eu tout sorti, j'avais pas envie de continuer, quoi. J'avais dit ce que j'avais à dire, et puis bon, bah, je peux repasser à Wicca. Donc comme ça, pour chaque projet, j'essaie de changer un peu de technique.
Voilà. Et ça veut dire que sur une des prochaines séries, ce sera palette graphique?
Non, je pense pas. Non, je pense pas. J'aime bien pouvoir toucher.
Non, mais t'étais prêt à faire du noir et blanc, là.
Ah, du noir et blanc, oui, ça me rangerait bien, oui. Noir et blanc, oui.
des encres, enfin plus des encres que juste crayonner par exemple.
Oui, pourquoi pas. Ouais, ouais. Après, il faut. Moi, j'attends. J'ai pas mal d'idées, hein, mais j'attends d'avoir un déclic à chaque fois. Il y a un matin, je me lève et c'est le bon moment, quoi, pour le faire.
Et,
puis, voilà.
Et il y a des scénaristes avec qui tu aurais envie de travailler?
Oui, oui,
à part
oui.
Par
l'amour. si, il y a par exemple, il y a Pierre Dubois avec qui je m'entends bien, mais le problème de Pierre, c'est que. Comme j'ai beaucoup de scénarios, beaucoup d'histoires déjà de commencer, lui il a peur de pas vivre assez vieux pour finir un travail en commençant avec moi dans 5 ans quoi.
Tu lui dis fais le scénario avant, c'est ça?
Oui, non mais il bosse quand même mollo hein, lui. qui d'autre comme ça? Non, a priori je vois pas. J'aime bien ma collaboration avec Gilles quoi en fait. Et si, il y avait Jodorowsky, oui. J'aurais bien aimé travailler. Mais pareil, lui, il est trop vieux. Il me raconte. Il me raconte des blagues.
Vous coupez au montage.
Non, mais il écrit que la moitié des scénarios maintenant. Alors,
il raconte le reste au téléphone. C'est
voilà,
une méthode
ouais,
aussi.
Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais.
Et donc, avec Gilles, vous avez déjà parlé d'une collaboration suivante? Ou pas encore?
Oh non, on a
déjà. Vous pouvez en parler maintenant.
On a plein d'idées, quoi. Si tu veux. On va adapter, je sais pas combien de romans, faut pas tout dire, mais il y a pas mal de classiques,
faut juste comprendre.
Fantastiques, ouais. Voilà. Toi, t'as eu des idées, moi j'en ai d'autres, bon, ouais, ça, c'est un peu.
Ouais, il faut comprendre comment ça marche, c'est-à-dire que tous ces trucs-là, il faut laisser le temps au temps. Il faut vraiment que les projets mûrissent et, donc c'est vrai qu'on a parlé de plein de trucs sur le Japon, sur, etc., etc., d'autres trucs. Mais, on est dans Wicca, il faut que, faut que l'envie elle grandisse et il y avait des, je pense qu'il y a des envies qui vont disparaître, d'autres qui vont monter. En tout cas, moi c'est comme ça dans l'écriture, c'est, j'écris aujourd'hui les histoires, j'ai commencé à réfléchir il y a 10 ans ou 15 ans, parce qu'il m'a fallu 10 ou 15 ans pour qu'elles atteignent leur maturité. Et je pense que c'est pour les BD, c'est pareil, il faut attendre que ce soit mûr pour se lancer. Si on se lance trop tôt, ou on n'y arrive pas, ou c'est pas bien ce qu'on fait. Donc là, on a du temps. On est encore avec Wicca pour quelques années. Mais il y avait des idées qui étaient sympas dans ce qu'on a parlé. Ça a le temps de décanter.
Et vu tes collaborations sur les couvertures avec Guillaume Sorel, est-ce qu'un projet avec Guillaume en bande dessinée pourrait être envisagé?
Alors, j'y ai pensé beaucoup de fois. Et en fait, je préfère rester copain avec lui. je sais pas. Enfin, c'est. La relation entre un auteur et un éditeur, elle est très forte. Elle peut être très forte. Enfin, moi, j'ai une relation très forte avec mon éditeur principal et j'ai une relation très forte avec certains de mes auteurs. La relation avec un auteur de BD, elle est aussi très, très forte et il faut qu'on aille dans la même direction. Très sincèrement, quand je discute avec Guillaume, que je voyais plus, mais là que j'ai revu, il se débrouille très bien tout seul. Il a absolument pas besoin de moi. Il adapte l'Orla tout seul. Il fait sa BD sur Prague tout seul. Voilà, c'est quelqu'un qui. Non, il est tellement littéraire.
Il aurait peut-être dû t'appeler
quand même. Ça, je te laisse. C'est quelqu'un qui est très littéraire, qui est très dans Léo Pérouse, etc. Bon, voilà. Mais non, il y a des. Bon, Je lis beaucoup de BD, beaucoup plus qu'Olivier. Et il y a vraiment des illustrateurs avec qui j'adorerais bosser. Bah, par exemple, François Bouc, quoi. C'est vraiment un illustrateur que j'adore. Emmanuel Lepage, je trouve que ce qu'il a fait sur Tchernobyl, c'est absolument génial. Donc, des envies, il suffit en fait d'aller dans un magasin de BD et de regarder les 4 albums qui te plaisent. Il y a pléthore d'illustrateurs avec qui j'adorerais bosser.
D'autres questions dans la salle, peut-être? Non? Et alors, est-ce que vous avez une question à poser à l'autre que vous n'avez pas encore osé poser? Bon, réfléchissez. Alors, pourquoi les couvertures sont faites sur toile?
Tu les as vus, quoi. C'est beaucoup plus spectaculaire sur toile. Les couleurs à l'acrylique ont une intensité
qui n'est pas la même qu'à l'encre ou à l'aquarelle, quoi, par exemple. J'avais envie de faire un grand tableau pompier. Ça, c'est des choses qui me plaisent.
Ça aurait pu être aussi quelques pages dans l'album faites de cette manière-là, ou ça aurait
non,
trop
c'est,
cassé
c'est beaucoup
au niveau,
trop long. C'est beaucoup trop long pour être fait en BD comme ça. Enfin, moi, j'y arriverais pas, quoi, en tout cas. Faire à la peinture, c'est pareil. La peinture, c'est comme la plume, c'est un truc qui est pas particulièrement naturel pour moi. Donc l'idée, c'est que ça paraisse aisé quand on la voit. Mais bon, en fait, je rame derrière, quoi, un petit peu. C'est quand même assez dur pour moi.
Et est-ce qu'on... La relation que tu as gardée avec les chroniques, est-ce que tu as de temps en temps des appels pour retravailler sur les chroniques ou des choses comme ça, par exemple ? Parce que là, on parle de couverture, par exemple. Je sais que c'est Brucero qui avait fait la couverture de l'intégrale, si je me souviens bien.
Non, il avait un tirage de luxe, un truc parallèle, ouais.
Et du coup, est-ce que toi, tu peux revenir dans cet univers-là à un moment donné, ou c'est vraiment quelque chose, tu as tourné la page ?
Ouais, moi j'ai plutôt tourné la page, oui. Je fais encore les couvertures, ouais. Ah, ouais, c'est sûr. Non, bah, souvent, François Fradval me propose ou même chez Dargo. Mais non, j'ai plus envie de repartir. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dedans. Et puis à l'époque, on était un petit peu tout seul en Heroic Fantasy, il y avait quelques autres titres. Maintenant, il y a quand même, énormément de choses. Et puis, voilà, quoi, je sais pas, je vois pas ce que j'ai de plus à dire là. Non, je préfère partir sur un nouvel univers. Et puis surtout, bon, il y a beaucoup de choses que j'ai pas le temps de faire et que j'aimerais bien trouver le temps de faire un jour. Et c'est donc pas, revenir en arrière, ça m'intéresse pas, quoi.
Et comme quoi, par exemple, parce que tout à l'heure tu nous parlais d'illustration, où tu avais l'impression aussi d'avoir presque une manière de travailler différente entre les pages et les pleines pages illustrées. Mm-hmm. Est-ce qu'après 2020, du coup, est-ce qu'on peut penser à un livre illustré simplement avec des grandes planches, des choses comme ça ? Alors, du coup, peut-être pour la seconde génération de tes petits-enfants, je ne sais pas, mais.
Ben oui, pourquoi pas, oui. Ah oui, j'ai plusieurs idées, quoi, mais bon, c'est relativement loin je m'engage pas trop non plus, quoi. Je fais des expériences quand j'ai une commande. Bon, bah voilà, si j'ai envie de faire un truc, je me dis, bon, plus tard, je vais faire peut-être un bouquin, j'aimerais bien faire sur des peintures, des estampes japonaises. Bon, bah voilà, je vais profiter d'une commande pour travailler là-dessus. Voilà, c'est le genre de façon que je vais faire, mais non, pour l'instant j'ai plusieurs idées, quoi, mais je verrai seulement en 2020 sur quoi je vais me focaliser, quoi. Voilà.
Alors, tu es plutôt rare en dédicace?
Oui.
Tu te déplaces assez peu en salon de bande dessinée, quoi, je dirais.
Oui.
Et là, le fait d'être dans un salon entre guillemets connoté science-fiction, enfin c'est plus que connoté, on dira. Il y a comme une juxtaposition d'univers, en fait. Et est-ce que, d'après toi, c'est un enrichissement ou c'est vraiment quelque chose d'un petit peu d'anachronique ? Comment
Je me suis pas proposé la question comme ça. C'est-à-dire que moi, j'avais surtout envie de faire une belle expo dans un festival où il y ait du monde et que beaucoup de monde puisse voir mon exposition, quoi. Bon, que ce soit spécialement SF ou Heroic Fantasy, bon, ça m'est un petit peu égal, quoi. Ça m'a autant plu d'être exposé à troller les légendes ou d'aller aux imaginales qu'aux utopiales, quoi. C'est pas le.
Et alors, est-ce que les originaux sont en vente ?
Non.
Pas encore ou
pas encore, non.
Ou après,
non,
pas
non,
encore. Non. Il faudrait qu'ils soient scannés d'abord, c'est ça ?
Oui, il y en a qui sont vendus. Là, il y a des collectionneurs qui ont prêté aussi.
Oui, là, il y a des collectionneurs qui nous ont prêté des œuvres, mais disons, les images inédites ne sont pas encore en vente. En fait,
non.
Il faudra attendre la galerie.
Il faudra attendre, oui, septembre prochain. Oui, oui.
Et alors, Gilles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton avenir d'éditeur ?
Bah, ouais, toujours chez De Noël.
Bientôt les 20 ans ?
Bah, dans 3 ans, non, c'est pas bientôt. Ça fait donc 17 ans que je fais Lune d'Angle chez De Noël. Je fais d'autres trucs aussi un peu de temps en temps. Là, c'est 2016, c'est une année où, entre guillemets, ça repart, où il y a un programme qui est vraiment costaud, avec un nouvel auteur français dont j'ai publié un livre énorme de 2 millions de signes, un space opéra avec des batailles spatiales, enfin un truc incroyable. Et ce métier-là, il est, je m'en lasse pas. C'est, on pourrait se dire qu'après 17 ans, faire le même truc, la même collection, dans la même maison d'édition, ça pourrait être lassant. Mais il y a le plaisir toujours de découvrir de nouveaux auteurs, de republier les mêmes et de creuser le sillon. Par exemple, Christopher Priest, j'ai publié L'Adjacent c'était cette année. L'an prochain, il y en aura de nouveau, j'espère un. Et c'est un auteur que je suis maintenant depuis 16 ans. Et voilà. Et Robert Charles Wilson, il y en a un nouveau en février. C'est un auteur que je suis aussi depuis 16 ans. C'est beau. C'est toujours pareil et toujours différent. Et puis, c'est le plaisir de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux territoires littéraires, de nouvelles réflexions sur. C'est vrai que moi, je publie de la science-fiction. Je publie beaucoup de science-fiction spéculative. Donc, il se pose des questions sur les réseaux sociaux, sur l'avenir de l'homme, l'avenir de la conscience, l'informatique, et ainsi de suite, la singularité technologique, toutes ces thématiques. Donc c'est voilà, ça change et ça reste quand même le métier de recevoir des manuscrits, choisir des livres.
En 17 ans d'édition, tu as connu a priori presque toutes les phases du marché de l'édition. Ce que l'on appelle la crise, disons, actuelle, tu la vis comment ? Est-ce qu'il y a plus de pression ? Est-ce que tu as autant de liberté qu'avant ?
Alors, j'ai clairement moins de liberté qu'avant parce que la crise, on l'a pris vraiment, vraiment en pleine gueule. Un livre que je vendais à 5000 exemplaires il y a 5-6 ans, maintenant, quand j'en vends 2000, je suis assez content. Donc, c'est dire l'ampleur de la catastrophe. Ça nous a obligés à réfléchir sur plein de choses et à changer nos process. Par exemple, on a réduit énormément nos coûts de fabrication. On a réduit la qualité de fabrication des livres un petit peu. Par exemple, on imprime en Italie maintenant, ce qui était impensable avant, puisque le groupe Gallimard voulait toujours, toujours imprimer en France. On n'imprime pas encore dans les pays de l'Est, mais je pense qu'un jour, on y viendra. Je fais très attention sur la taille des traductions que j'achète. C'est-à-dire que je n'achète plus de livres énormes comme je pouvais acheter il y a 10 ans, des traductions de 700 pages. Donc oui, tout a changé. Mais là, cette année, par exemple, c'est plutôt une bonne année avec le Christopher Priest, avec le livre de Jean-Pierre Boudin qu'on a réimprimé deux fois, Le paradoxe de Fermi. Donc c'est le succès appelle le succès. Donc comme je suis plutôt une bonne année, l'an prochain, il y a des projets plus ambitieux. Il y a des traductions plus coûteuses. Ce qui a vraiment changé, c'est que quand moi je suis arrivé dans le milieu d'édition il y a 20 ans, pas 17 ans, mais 20 ans avant d'arriver chez De Noël, on faisait du livre. Vraiment, on faisait du livre. On achetait des livres, on achetait des auteurs, on publiait des livres et on faisait du livre. Maintenant, je fais du livre, mais je fais des déjeuners avec des producteurs de télé, des déjeuners avec des producteurs de cinéma. J'essaye de créer des passerelles avec la BD, je fais des choses transmédia, je réfléchis à des projets avec Glénat Comics d'un côté, les auteurs des comics de l'autre chez De Noël en tant que romancier, ainsi de suite. Donc le métier, il s'est beaucoup ouvert. C'est aussi pour ça que je m'en lasse pas, parce que il a changé, il est vraiment devenu différent. Il y a eu l'arrivée du numérique. Alors bon, dans le groupe Gallimard, c'est léger, le numérique, c'est pas un groupe qui a énormément développé, mais en tout cas, bon, on fait du livre numérique. Tout ça change tout le temps. Les problématiques changent. Bon, là, il y a quand même une problématique du piratage qui est réelle. Comment on va payer nos auteurs si les bouquins, vous pouvez les télécharger en une seconde gratuitement à peu près partout. Comment on finance la création dans un monde où on va prendre un film et avec la fibre optique, le film, en 3 minutes, vous l'avez dans votre ordinateur et vous n'avez rien payé sur ce film. Donc les créateurs de ce film ne vont rien gagner sur votre vision, votre utilisation du produit. Donc est-ce que c'est aux pirates, entre guillemets, de payer ? Est-ce que c'est réfléchir comment on partage les fichiers, comment on partage les œuvres et que les gens puissent continuer à créer ? Il y a plein de problématiques alors qui me dépassent complètement, hein, mais il y a plein de problématiques nouvelles qui apparaissent avec le progrès des moyens de téléchargement, le progrès des liseuses couleurs sur les BD qui sont là et qui seront de mieux en mieux, parce que tout est de mieux en mieux. Les tablettes sont de mieux en mieux, les ordinateurs portables sont de mieux en mieux. Donc il y a un grand virage qui s'annonce, qui est un virage technologique au niveau de la création. Et il y a un autre virage que là, le grand public, vous ne connaissez pas, mais qui est aussi très important, ça va être le virage des retraites. Ça a l'air complètement idiot, mais les retraites des écrivains, les retraites des gens de la BD, tout ça, bah, elles nous coûtent de plus en plus cher. Et on est de moins en moins, on a de moins en moins de points de retraite, malgré que ça nous coûte de plus en plus cher. Donc c'est pareil, il va falloir trouver des moyens pour financer ces retraites, pour que un auteur, quand il a 80 ans, il peut plus dessiner, ou il dessine moins vite, ou il dessine moins, et donc ses revenus baissent, et il puisse continuer à vivre dignement, parce qu'il a eu une carrière, il a cotisé pendant 30, 40 ans, il a cotisé beaucoup, et il faut qu'il quand même il récolte le fruit de ses cotisations à un moment ou à un autre. Donc voilà, le monde change, on est dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs au moins, et ça a des répercussions très concrètes, alors ça a des répercussions très concrètes même sur les métiers artistiques, tels qu'on les vit, et sur la façon dont on fait son métier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment maintenant dans des optiques de réduction de coûts, qui sont des optiques que je ne connaissais pas quand je suis arrivé dans l'édition il y a 15-20 ans, où c'était plutôt quand même, on prenait un taxi pour n'importe quoi, il y avait une note de frais, et ainsi de suite. Ça, cette ère-là, elle me semble être en train de disparaître.
On va rester sur ces questions ouvertes. Je vous remercie de cette petite balade d'une heure passée au coin de la lampe à bronzer. Merci à vous, et on vous retrouve en dédicace certainement, ou en tous les cas durant tout le festival. Merci.
Merci.